Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 22h à Séoul, l'heure d'un nouveau journal. Et c'est avec vous, Karine Belisha, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la Corée du Sud n'arrive pas à sortir de la crise politique. Des milliers de manifestants sont dans les rues de Séoul ce samedi. Partisans du président déchu et adversaires se font face. Son camp s'oppose toujours à son arrestation. De l'autre côté, les partisans de l'état de droit entendent protéger la démocratie coréenne. Aux États-Unis, alors que la Nouvelle-Orléans panse toujours ses plaies après l'attentat du Nouvel An, la police avance dans son enquête et a désormais la quasi-certitude que l'attaque n'a pas de lien avec l'incident de Las Vegas où un militaire a fait exploser sa voiture devant un hôtel Trump à quelques heures d'intervalle. Nous évoquerons aussi avec notre correspondant en Haïti l'arrivée au compte-gouttes des contingents étrangers pour aider les forces de sécurité locales débordées par la violence des gangs. En Corée du Sud, le face-à-face est toujours tendu entre partisans et adversaires du président déchu. Chaque camp manifeste et compte ses forces. Hier, les enquêteurs sont repartis bredouille devant la détermination de ses services de sécurité à empêcher son interpellation. À Séoul, Camille Ruiz est allée interroger les Coréens qui manifestent et qui s'interrogent sur les conséquences de cette profonde crise politique.
C'est un sujet que l'on entend souvent dans les discussions des militants ces dernières semaines, l'image de la Corée du Sud. Les manifestants pro-démocratie disent s'inquiéter pour la situation politique intérieure, mais certains pensent aussi à ce que renvoie leur pays à l'étranger. C'est le cas de Choi Ji-hyun, 23 ans, qui se veut rassurante.
On peut avoir l'impression qu'en Corée, c'est compliqué en ce moment. Et ça l'est. Mais il faut avoir confiance en notre pays parce que les citoyens se mobilisent et essayent de toutes leurs forces de normaliser les choses.
Gil-young a 58 ans, il est syndicaliste.
La Corée s'inquiète de sa crédibilité à l'étranger qui diminue à cause de la situation politique. Mais je pense que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir parce que nous, travailleurs coréens, protégeons la démocratie. Ces événements peuvent même représenter une occasion de la renforcer.
Le gouvernement, lui, ne se montre pas si optimiste. Les ministres tentent de rassurer investisseurs étrangers et potentiels voyageurs. Début 2025, des mesures seront prises dans le secteur du tourisme, comme par exemple des exemptions de visas renouvelées ou l'organisation d'une série de festivals et d'expositions internationales. Objectif, promouvoir une image positive de la Corée du Sud. Des aides seront aussi proposées au secteur. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En Birmanie, la junte annonce l'amnistie de 6000 prisonniers. Une amnistie à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Depuis son coup d'État, en 2021, l'armée a arrêté des milliers de personnes. En Cisjordanie occupée, la tension est forte après un raid de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés de Naplouse. Un Palestinien a été tué, 9 autres blessés. L'armée affirme avoir riposté à une attaque lors d'une opération antiterroriste. Signe de la transition en Syrie, les vols internationaux vont reprendre à Damas à partir de mardi et le nouveau pouvoir multiplie les rencontres avec les représentants occidentaux et régionaux. Le ministre des Affaires étrangères se rendra la semaine prochaine au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie, prochaine étape de sa tournée diplomatique après l'Arabie saoudite mercredi dernier. Aux États-Unis, l'enquête se poursuit à la Nouvelle-Orléans après l'attentat à la voiture Bélier pendant les festivités du Nouvel An. Le président Biden doit se rendre sur place ce lundi pour rencontrer les familles des victimes de l'attaque qui a fait 14 morts. Le FBI continue d'analyser le profil du tueur affilié au groupe État islamique. On sait désormais qu'il agit seul et les enquêteurs sont de plus en plus convaincus de l'absence de lien avec le suicide d'un militaire à Las Vegas quelques heures plus tard. L'homme avait fait exploser sa voiture Tesla devant l'un des hôtels Trump. Les explications de Nicolas Falaise.
Nous sommes le meilleur pays qui ait jamais existé, mais à l'heure actuelle, nous sommes fatalement malades et nous allons vers l'effondrement. Voilà ce qu'écrit Matthew Livelsberger dans une lettre retrouvée par les enquêteurs. Dans ce texte, l'homme évoque aussi des traumatismes subis au cours de sa carrière militaire, en parlant des compagnons perdus au combat et des vies qu'il a prises, selon ses propres mots. L'homme qui s'est donné la mort le 1er janvier à Las Vegas justifie son acte car, selon lui, les Américains ne prêtent attention qu'au spectacle et à la violence. Il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste, mais d'un signal d'alarme, précise encore le trentenaire, ancien des forces spéciales américaines, dont la voiture a explosé devant un hôtel propriété de Donald Trump à Las Vegas. Mais Matthew Lieversberger n'avait aucune animosité envers le président élu, explique le responsable de l'enquête pour le compte du FBI. Le profil qui se dessine est celui d'un vétéran décoré souffrant de stress post-traumatique, un cas tragique de suicide selon les enquêteurs.
Et en matière de politique américaine, Mike Johnson a été réélu au poste de président de la Chambre des représentants, malgré l'opposition d'une partie des élus républicains. Finalement, les récalcitrants sont rentrés dans le rang. Un premier test d'influence pour Donald Trump, qui avait clairement soutenu Mike Johnson. Le président élu a donc réussi à tenir ses troupes avant son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Et c'est le 10 janvier, 10 jours avant son investiture, que Donald Trump connaîtra sa peine dans l'affaire Stormy Daniels. En mai dernier, il a été reconnu coupable d'avoir dissimulé des paiements à cette actrice porno pour obtenir son silence sur leur relation. Le juge précise que la prison ferme est exclue. Sur son réseau social, le milliardaire dénonce une attaque politique illégitime et une mascarade. Direction Haïti, le contingent étranger continue de se renforcer pour prêter main forte aux forces de sécurité locales face à la violence des gangs. Après le Kenya, ce sont cette fois des militaires du Guatemala et du Salvador qui sont arrivés en Haïti. À Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Pour faire revenir la paix dans la capitale haïtienne, l'aide internationale arrive au compte-gouttes. Ce vendredi, 75 soldats guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens ont foulé le sol haïtien pour rejoindre les 400 policiers kényans déjà présents en Haïti. Lionel Lazare est le porte-parole adjoint de la police.
Ils sont arrivés dans le cadre des promesses faites pour assister et appuyer la police nationale d'Haïti dans la grande bataille qu'elle mène contre les gangs armés en Haïti.
De hautes personnalités, dont le patron du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le chef du gouvernement, le chef de la police et l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, sont venus en personne accueillir ces nouveaux soldats à l'aéroport international Toussaint Louverture. En ce qui concerne les 8 militaires salvadoriens, ils ont été déployés pour préparer l'arrivée imminente d'un contingent plus important de troupes salvadoriennes. L'arrivée de ce contingent est un bon signe, selon Lionel Lazare.
La police nationale.
La PNH et les policiers kényans poursuivent la bataille. Ces nouveaux effectifs, fraîchement arrivés, représentent une hausse significative par rapport à ceux qui étaient en place auparavant.
Une nouvelle étape dans cette collaboration internationale, mais le chemin est encore semé d'embûches pour retrouver un semblant de stabilité dans la vie quotidienne des Haïtiens. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
En France, les syndicats agricoles seront reçus par le Premier ministre le 13 janvier. Trop tard pour la coordination rurale qui maintient son appel à manifester à Paris et partout en France à partir de demain. Le deuxième syndicat du secteur entend obtenir des garanties du nouveau gouvernement pour la défense d'une agriculture française broyée, dit-il, par les normes européennes et le libre-échange. L'État français finalise par ailleurs le rachat de 80% d'Alcatel Submarine Networks, ASN, l'une des rares entreprises à fabriquer des câbles sous-marins à fibre optique, une activité hautement stratégique. Agnès Kakoumor.
Même si le groupe finlandais conserve les 20% restants, la transition devrait être fluide. À terme, Alcatel Submarine Networks devrait entièrement revenir dans le giron de l'État français. Pourtant, quand Nokia a racheté Alcatel-Lucent en 2015, Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie, la France avait laissé partir cette entreprise avec sa division de câbles sous-marins. Grosse erreur, selon les experts. ASN est en effet l'une des rares entreprise au monde à produire et installer des câbles sous-marins de télécommunication. Valorisé à 350 millions d'euros, le groupe détient un tiers des parts de marché du secteur et réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Quelques 500 câbles posés au fond des océans tissent un réseau par lequel passe plus de 95% d'Internet. Contrôler ces infrastructures permet aux pays de garantir leur souveraineté numérique. La France n'a pris conscience de ces enjeux que tardivement. En rachetant ASN, le pays ambitionne de devenir un acteur incontournable dans ce secteur hautement stratégique.
Agnieszka Kumor du service Echo de RFI. La doyenne de l'humanité est décédée. Il s'agit d'une japonaise, Tomiko Itoka. Elle avait 116 ans. Elle vivait dans le sud du Japon, un pays où les centenaires sont très nombreux. Ils sont près de 100 000, en très grande majorité des femmes. Et puis un mot du Vendée Globe où Charlie Dalin a presque doublé son avance sur Johan Richaume la nuit dernière après avoir traversé une zone zone de vent faible, les deux leaders de la course en solitaire autour du monde ont repris de la vitesse.